Merci. Nous allons passer aux questions avec le public. Pour des questions de prévention, je vais venir près de vous, mais je garderai le micro dans la main. Voilà.
Oui, ben je suis content. Vous parliez effectivement d'hystérisation des débats. Je dois avouer, dans beaucoup de débats actuels qui sont par rapport à la moralisation et l'aspect éthique, il y a beaucoup de choses qui me gênent ou ça devient de plus en plus restrictif, notamment effectivement pour Polanski. Ce qu'a fait l'homme, c'est une question de la justice et la justice devrait s'en occuper, effectivement. Son film est autre chose. Par contre, aspect gênant, c'est ce que Polanski... comment Polanski utilise parfois son film à titre personnel pour défendre ce qu'il a fait dans le passé. Donc pour moi, son film en tant que film n'est pas à être attaqué du tout. L'attitude de Polanski par rapport à ce qu'il fait de son film et comment il l'utilise est gênant. Autre remarque par contre qui va plus loin, pour moi effectivement ce qui est illégal là-dedans, le viol est illégal. Je ne comprends pas comment on a pu publier les bouquins de Matzneff. Si je comprends bien, je ne les ai jamais lus, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans non plus, mais si je comprends bien, il décrit le viol d'un petit garçon à l'étranger. C'est du viol. Comment peut-on, un, publier ce bouquin, et deux, avoir autant de gens qui trouvaient ça intéressant à lire? Je suis désolé. Si c'est fictif qu'il raconte l'imaginaire d'un viol, on est dans le fantasme. Si par contre il décrit les actes réels, j'ai violé les enfants et voici comment je les fais aussi, c'est du pénal, c'est du viol. Je ne comprends pas comment intellectuellement on peut effectivement défendre ça non plus. Et même comment ça peut être publié, quel était l'intérêt? Parce que si c'était intéressant de publier, mais il y a des milliers de personnes qui violent les petits-enfants, alors pourquoi on ne publie pas tous ces bouquins aussi puisque c'est intéressant de publier? Donc là parfois j'ai du mal à comprendre comment on en arrive à trouver une œuvre... un viol réel. C'est la même chose pour ce qu'on appelait les snuff movies à un moment aussi, où est-ce enfant, est-ce réel, est-ce que c'est pas aussi, où on parlait de films effectivement ultra violents dans lesquels le meurtre des personnes n'était pas mis en scène mais était réel, où on assassinait réellement les acteurs. Bon, à ce moment-là, snuff movie est totalement inacceptable, c'est du meurtre, c'est pas de l'art. Par contre, un film aussi loin va-t-il sur la pornographie, tout ça aussi, où c'est des mis en scène, pour moi c'est acceptable.
Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est, alors pour commencer par le deuxième cas, oui, comment est-ce que ça a pu passer, Matzneff, la publication, et pas seulement la publication, mais même le fait qu'il ait été fêté, etc. Bon, quand l'affaire est sortie dans les milieux français, il y a eu des pages entières dans Le Monde où on voyait la liste de tout ce qui avait soutenu Matzneff, hein, Jack Lang, Sartre, Beauvoir... c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui reste vivant rase un peu les murs, hein. Mais il y a eu aussi beaucoup d'articles qui ont quand même rappelé que cette position-là, c'était pas la position de l'ensemble de la population, hein, quand même, que c'était qu'il y avait une sorte de position, justement, vous voyez, qui allait bien avec l'idée de transgression. Qui allait bien avec l'idée bien portée de transgression au XXe siècle. C'est-à-dire, il fallait, dans un certain milieu, la transgression était bien portée. Voilà. C'était presque un devoir. Voilà. Donc, voilà. Alors, là-dessus, je n'ai vraiment aucune espèce de complaisance pour ce genre de choses. Et je trouve que ça fait partie de ces cas, effectivement, où, pour le dire en termes un peu plus techniques, le défaut moral est tellement incontestable et énorme, que la qualité artistique, si elle existe, je vous avoue que moi non plus j'en ai jamais lu, du Matzneff, ne suffirait pas à rattraper et à... Voilà, donc là-dessus c'est tout à fait clair. Et pour le premier exemple que vous avez donné, sur l'homme et l'œuvre, le cas Polanski, effectivement c'est un des points qui fait que c'est compliqué l'affaire Polanski, c'est que le... Alors, pour être très précis, un journaliste avait demandé à Polanski s'il voyait un rapport entre l'injustice faite à Dreyfus et les problèmes que lui-même avait eus. Voilà. Et il avait dit que oui. Alors, est-ce que ça signifie... Là aussi, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que ça signifie qu'il a fait ce film pour, comme une sorte de prétexte, donc sur une partie de billard à trois bandes, pour défendre sa cause, auquel cas on ne peut plus tout à fait séparer le cas de l'homme du cas de l'œuvre, ou est-ce que ce n'est pas le cas? Mais en tout cas, ça vient ajouter de la complexité. Et tout ce qui... ça fait partie des choses qu'il faut envisager. C'est pour ça que quand je dis au cas par cas, ça veut vraiment dire en regardant de près et en ne pas se contentant d'une sorte de position préétablie où on a de toute façon des croyances absolues, des convictions, et on n'a pas besoin d'aller plus avant. Donc je suis d'accord avec vos deux propositions.
Moi, j'aurais, j'aurais plusieurs points par rapport à vos propositions. La première, j'aimerais bien reprendre le mot de circonstanciel que vous avez utilisé en me disant que si on était dans une société complètement égalitaire où on pourrait voir plein de films de femmes, plein de films de racisés, que tout le monde aurait la parole, peut-être on n'aurait pas besoin d'avoir ce rapport moral, comme vous dites, parce qu'il y aurait une justice et il y aurait une répartition de qui parle. Le problème, c'est qu'on fantasme un art contemporain qui serait complètement autonome, alors qu'il est complètement mis dans une circonstance d'une poignée de personnes qui peuvent parler. Par exemple, pour parler de la censure de Polanski, Polanski a eu des sommes genre 25 millions d'euros pour faire son film. On a parlé de censure, il était diffusé dans 260 salles à Paris, alors que le film de Moti Diop, Atlantide, était dans 4 salles. Donc il y a aussi une censure économique, de qui a les moyens de pouvoir parler. Et du coup, moi, ça me fait penser à s'il y avait de la justice, si toutes les femmes qui avaient eu des problèmes pouvaient témoigner à un procès et obtenir justice, si tous les enfants pouvaient témoigner à un procès et obtenir justice, il n'y aurait pas besoin de moyens de pression. Je pense que les activistes juste utilisent des moyens de pression parce qu'on n'est pas dans une société égalitaire. Et ça, je trouve que ça serait chouette d'en parler aussi. C'est-à-dire que ça fait partie d'une circonstance.
Oui, absolument. De toute façon, il faut bien voir que les affaires récentes ont scindé le féminisme en deux, c'est-à-dire un féminisme, universaliste, un féminisme plus militant qui est porteur de... Bon, par exemple, pour le dire vite, en France, qui est représenté par... comment s'appelle-t-elle, Caroline Fourest, vous voyez. Donc la question, tout le monde est d'accord en tant que féministe, moi la première, sur tout ce qui est violence faite aux femmes, tout ce qui est viol, tout ce qui est harcèlement doit être condamné avec la plus grande sévérité. Encore une fois, c'est absolument clair. Le problème me semble apparaître lorsque cette position morale, dont je ne démordrai pas, va engendrer des effets, des effets en chaîne sur le domaine de la vie artistique, sur le domaine de la vie culturelle et sur le domaine de la vie intellectuelle. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait à gagner, par exemple, de faire ce qu'on voit arriver aux États-Unis. Enfin, c'est pas, on le voit arriver, c'est déjà là. Le fait, par exemple, que l'esthétique, qui est mon domaine, soit maintenant fragmentée en esthétique féministe, donc je le dis en français, hein, mais esthétique féministe, black esthétique, etc., etc., qui est toutes ces partitions de choses. Parce que Finalement, je ne vois pas très bien c'est ce dont je parle quand je parle de balkanisation. C'est-à-dire, je ne pense pas que c'est en passant par la balkanisation qu'on arrivera à la normalisation. Je suis plus réformiste, si vous voulez, que révolutionnaire. Voilà. Et surtout, les effets en chaîne dont je parle, et qui me paraissent des effets inquiétants, c'est effectivement le fait... par exemple, je trouve très grave que les procès ne soient pas des procès instruits, qu'il n'y ait pas d'instruction des procès. Voyez. Or, beaucoup de procès sur... tout à l'heure, je vous ai dit que je ne supportais pas quand on me disait que j'étais pour la pédophilie parce que je ne pensais pas qu'il fallait décrocher Gauguin, ou que j'étais pour le viol parce que... C'est parce qu'on me l'a reproché. Et ça, je trouve ça insupportable, si vous voulez, qu'au nom d'un combat juste, dont les causes sont justes, ça passe par de tels effets ravageurs dans le domaine des relations ordinaires, mais aussi dans le domaine intellectuel. C'est-à-dire le fait d'avoir face à moi quelqu'un qui prétendait ce qu'elle prétendait à partir de rien, sinon à partir de l'idée que si on n'est pas comme ça, c'est qu'on est de l'autre côté, c'est une position, quand je dis intellectuellement délétère, je veux dire que c'est, on est mal parti, tout est mal parti si on part sur ces bases-là.
D'autres voix, c'est important. Par exemple, dans votre conférence, vous avez fait beaucoup de références et vous avez référé que deux femmes, par exemple. Donc vous-même, vous reproduisez des systématiques. Alors, et on baigne là-dedans.
Attendez, par exemple, j'ai parlé du procès du CAPC, l'expo du CAPC, il y avait 40% de femmes.
Non, c'est pas ça. Vos références littéraires ou de personnes.
Alors, lesquelles, par exemple ?
Vous avez cité deux personnes dont... je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais je veux juste dire
Si, mais ce serait intéressant.
Non, ce n'est pas intéressant.
Parce que...
C'est comment on laisse la place... Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème de distribution inégalitaire des choses et qu'il y a une imposition d'un point de vue et que ça manque la pluralité. Mais... Et qu'il faut être vigilante là-dessus.
Ah, mais...
Voilà.
Alors, être vigilant là-dessus, ça va de soi. Par exemple, je suis tout à fait favorable à ce que les musées accueillent des œuvres qu'ils n'accueillaient pas. Je ne suis pas directeur de musée, donc je n'ai pas accès à ces choix possibles, etc. Mais je pense, en revanche, que l'idée qu'il faut enlever l'un pour mettre l'autre, enfin, la richesse, c'est justement l'inclusion par la diversité, par l'ajout de la diversité. C'est pas la suppression de Gauguin pour faire place à. Donc, il me semble qu'il y a de grands dangers, y compris sur le plan, je répète, intellectuel, parce que tous ces plans ne sont pas sans lien les uns avec les autres. Il va de soi que la création d'œuvres faibles, c'est aussi pas bon pour l'art, vous voyez. Le fait qu'il y ait de l'autocensure chez les artistes, le fait qu'ils s'en plaignent, le fait que certains se plaignent du fait qu'il y a des types d'injonctions ministérielles, institutionnelles, parce que il y a des injonctions positives. Ce livre m'a valu des messages d'artistes qui me disaient « Nous, on rentre dans aucune case parce qu'on ne travaille pas sur ces sujets-là. On ne peut pas avoir d'aide, etc. » Donc ces aides, elles existent quand même. Il ne faut pas non plus faire comme si elles n'existaient pas. Et qu'elles existent, c'est très bien. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça crée artificiellement une intentionnalité. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, l'égalité se soit. Ça, nous sommes tous d'accord sur la fin. La question, c'est les moyens. Moi, je trouve qu'il y a des moyens qui sont des moyens qui ont des conséquences regrettable et dans le domaine de l'éthique et dans le domaine de la production artistique, puisque c'est de ça dont on parle ici.
Euh, Alors, je vais rebondir sur ce que madame disait. C'est, en fait, moi, la question que je poserais, en d'autres termes, c'est, je la poserais en arlequin, c'est-à-dire en arc-en-ciel. C'est-à-dire, aujourd'hui, la fragmentation, elle permet que, oui, on puisse avoir accès à une production dite de films racisés, de théâtre, qui est de metteurs en scène racisés, d'une littérature racisée. On va avoir accès à tout d'un coup se dire « Ah tiens, ça existe en fait, les queer genders avec des films queer, un univers queer. » Et pour ceux qui jusque-là justement se sentaient censurés ou en tout cas se trouvaient pas légitimes de pouvoir être, de développer leur univers, en fait tout d'un coup ils peuvent trouver ce que, en fait, parce que en fait là, Gauguin pour moi il fait partie d'un patrimoine qui encore et toujours en fait reproduit une certaine vision de la place de la femme racisée encore plus, et de l'homme créateur avec son monopole d'homme créateur. Ce que je trouve intéressant dans la fragmentation, c'est qu'elle ouvre les champs. Alors c'est vrai que peut-être on doit passer par cette fragmentation qui est peut-être un peu stressante parce qu'on se dit mince, en fait ça démultiplie, du coup où est-ce qu'on va trouver une unité? Mais peut-être faut-il passer par là pour trouver une tierce voie ensuite. C'est-à-dire on sort quand même d'un sacré monopole avec l'homme blanc créateur partout, et c'est une petite poignée hein, d'hommes blancs créateurs qui, voilà, c'est aussi bien en littérature, en peinture, en réalisation de films, en metteur en scène, pour ouvrir, du coup fragmenter, mais vivre les fragments. Moi, je trouve que, quelque part, ça éclate tout. Mais en fait, il faut, enfin, excusez-moi, mais je trouve qu'il faut le fissurer, en fait, ce monde et ce monopole. Et ces avantages qui allaient avec pour que les voix puissent émerger des fissures qui apparaissent et de cette fragmentation pour ensuite peut-être trouver autre chose, je sais pas quoi, mais d'avoir la foi que ça va pas mettre plus d'opposition et de créer des clans, mais peut-être, en fait, donner une plus grande variété, enfin, quelque chose de l'arlequin, pour moi, qui ressemble plus à quelque chose de l'arlequin, et j'espère peut-être que la somme de toutes ces, de toutes ces couleurs, formes, existences bigarrées, peut-être fasse une unité qui soit plus à l'image de l'humanité telle qu'elle existe. Et du coup, je trouve que finalement, se dire comme acte fort de se dire on décroche Gauguin, c'est pas pour brûler Gauguin, c'est pas pour à tout jamais supprimer Gauguin et se dire il n'existe plus, on n'y fera plus référence et on brûle les peintures. C'est juste un acte pour dire on le décroche pour aussi rafraîchir notre regard et permettre que notre regard. Bah, se dire qu'est-ce qu'on met à la place, juste un temps. Ça ne veut pas dire qu'à tout jamais il n'y aura plus Gauguin dans les musées. En fait, on est loin de ce péril-là. Mais au moins juste se demander, parce que les musées, depuis les performances des activistes américaines, les Guerrilla Girls. On est toujours à 6%, quasiment, enfin en tout cas on ne dépasse pas les 10% de représentation de plasticiennes, de peintres, de sculptrices dans les musées. Donc il y a quand même, je trouve sur cette question des inégalités que soulevait madame, c'est vrai que vous le disiez vous-même, ce n'est pas la justice, ce n'est pas les tribunaux qui aujourd'hui en fait agissent, ce sont les réseaux et ce sont la presse. Et quelque part, c'est peut-être parce que justement cette justice et cette égalité, elle n'est pas là, que du coup, on est bien forcé à un moment donné d'éclater d'une manière ou d'une autre, en fait, ce patriarcat phallocratique avec cet homme blanc créateur.
Alors, je répondrai que l'idée d'Arlequin, de diversité est tout à fait séduisante. Ce qui me gêne davantage, c'est que vous l'invoquez, donc vous invoquez cette diversité, cette pluralité, mais précisément au moment où les censures dont on vient de parler ne portent pas sur telle ou telle œuvre, mais portent sur des cas qui sont... tous les cas que j'ai pris, par exemple le fait que Kanata soit attaqué, le fait que ce sont précisément des œuvres qui sont à la gloire de ces minorités. Donc le fait qu'elles soient attaquées me paraît étrange, de la même façon que c'est un peu étrange d'attaquer Harriet Beecher Stowe pour la case de l'oncle Tom, parce que elle défendait ça. Vous voyez ? Donc, comment peut-on, au nom de la diversité qui était revendiquée par, qui a été ou qui est revendiquée par ces auteurs-là, justifier cette censure ou cette recherche de censure ? La censure n'est pas toujours effective, effectivement. Et toutes ces formes d'intimidation qui encore une fois... si vous pensez qu'il s'agit d'intimider l'homme blanc colonialiste, etc., c'est une chose, mais pensez que la censure, elle s'adresse aussi à des gens qui ne sont ni des hommes, par exemple moi, ni colonialistes. Et ça, c'est plus gênant.
Je parle à un endroit où, en tant qu'artiste, moi, j'ai eu l'occasion, en fait, de me prendre des murs. Mais quand je vous dis des murs, c'est vraiment des murs, quoi.
Oui, mais bon, donc, vous vous référez à votre expérience, je comprends bien. Mais
bah vous aussi, vous venez de dire...
Mais je viens de dire que c'est en qualité, comment dire, qui me paraît difficile d'avancer la défense de la diversité que vous avancez, et que je défends aussi, pour justifier la fermeture de certaines de ces formes de diversité. Voilà, c'est simplement ça.
Nous prendrons une dernière question.
Vous avez parlé de balkanisation de l'esthétique. Est-ce que l'esthétique, pour vous, défend une valeur comme le beau ? Est-ce que le beau peut être considéré bien comme mauvais ? Tout en restant beau. Donc, est-ce une autre valeur ou est-ce cette contamination de l'éthique dans l'esthétique qui... ouvre cette balkanisation de telle sorte que on ne sache plus où se trouve le beau et qu'on n'ait plus que le bon comme référence. Et donc forcément il y a beaucoup de bons, il y a autant de bons que de société, que d'époque, que de etc., etc., que de culture, que de caste, que de couche, etc.
Alors effectivement là il y a un problème de terminologie qui est délicate, c'est que la discipline qu'on appelle esthétique étymologiquement est lié à la question du sensible et du beau. Hein. Que l'art ait été lié de façon particulièrement forte avec le beau, c'est ce que dit le terme même de beaux-arts. Donc à un moment, c'est vrai, c'est autour du 18e que la valeur beauté est devenue la valeur suréminente de l'art. Et peut-être même la seule véritablement valable si on lit les signes. Bon. Le problème, c'est que le beau n'est plus la valeur depuis le 19e siècle, pour le dire vite, la beauté n'est pas la seule valeur de l'art, voire n'a plus été du tout la valeur de l'art. C'est le romantisme qui a dit que la laideur avait mille formes là où la beauté n'en avait qu'une et que c'était beaucoup plus intéressant de s'intéresser à la laideur qu'à la beauté, etc. Et puis c'est vrai qu'après, si vous faites une étude lexicale des critiques d'art en général, vous allez voir que le mot beauté a largement disparu du lexique au profit d'autres comme la valeur intéressant, la valeur ceci, la valeur cela. Donc Après, fondamentalement, la question derrière votre question, c'est celle du rapport du beau et du bien. Hein? Alors là aussi, j'allais dire, il y a eu des époques révolues où l'on considérait que le beau et le bien et le vrai, c'était la même chose considérée de plusieurs points de vue. C'est la position de Platon, de Plotin, qui reste vraie encore jusqu'à la Renaissance, en gros. Et puis... aujourd'hui, on ne dira plus que le beau et le bien, c'est la même chose, ou que le beau est naturellement bon, ou que le bon est naturellement beau. C'est-à-dire que il va être assez difficile aujourd'hui de lier le beau et le bien, donc de trouver dans toutes les formes de bonté morale une forme de beauté, et réciproquement. Donc c'est... J'allais dire, on le regrette, parce que l'esthétique comme discipline et l'art comme activité visant le beau serait avantagée par une position théorique qui lierait le beau et le bien. Mais elle est difficilement tenable aujourd'hui, malheureusement, peut-être.
Merci, cela signera la fin de cette rencontre. Merci à chacun. On peut retrouver en vente à la librairie Books on the Move le livre « L'art sous contrôle ». Et Madame Talon-Hugon nous fait le plaisir d'une séance de dédicace. Et cela permettra peut-être de poursuivre la discussion. Bonne soirée et merci.